Vous écoutez RFI Radio France Internationale, il est 7h à Paris, 8h à Beyrouth, 5h, temps universel. Le journal dans RFI Matin avec Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. 250 millions de cas dans le monde en 2022, le paludisme toujours aussi prégnant. Mais la science progresse et depuis quelques années, des vaccins sont testés pour les enfants dans plusieurs pays africains. Reportage à venir.
Des frappes d'une intensité sans précédent contre le sud du Liban hier.
Une trentaine menée par l'aviation israélienne en plus de nombreux tirs d'artillerie. Nouveau cap franchi dans l'intensité des combats entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Alors que dans la bande de Gaza, les préparatifs pour une opération à Rafah se poursuivent. Dans ce journal également, la PAC dépouillée de plusieurs mesures protectrices de l'environnement. Et puis un détour par le festival du printemps de Bourges où Françoise Hardy a été célébrée hier.
Plus de 600 000 morts en 2022, dont 95% en Afrique. Ce 25 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme.
Et pendant longtemps, les outils de lutte, justement, se limitaient à la prévention et au traitement. Mais désormais, il existe une nouvelle arme contre cette maladie transmise par les moustiques et particulièrement dangereuse pour les enfants. Il s'agit des vaccins. Depuis 2019, trois pays africains, le Kenya, le Malawi et le Ghana, testent à grande échelle un sérum pour lutter contre le parasite qui doit être administré aux jeunes enfants. Après 5 ans d'essai, la mortalité infantile liée au paludisme a reculé de 13%. C'est donc un véritable motif d'espoir, alors que la maladie reste la principale cause de mortalité chez les enfants dans plusieurs pays. Et ce résultat a été rendu possible par de vastes campagnes de proximité. Reportage avec notre correspondant au Ghana, Victor Cario.
Une petite piqûre sur le bras. Et ça y est, Precious, fillette de 10 mois à peine, a reçu sa troisième dose du RTSS, l'un des deux vaccins contre le paludisme. Un soulagement pour sa mère, Victoria.
Les enfants, quand ils ont le paludisme, ça peut être très dangereux. Ils ne peuvent pas exprimer leur douleur. Donc j'ai beaucoup aimé quand ils ont commencé la vaccination pour nos enfants.
Elles sont une trentaine de mères et autant de bébés à s'être regroupées ce matin sous le préau d'un des centres de santé de Boudoubouram, ville à l'ouest de la capitale, Accra. Pour les accueillir, Felicity Otu, responsable du contrôle des maladies pour le système de santé ghanéen.
Les gens ici ont bien accueilli le vaccin, surtout parce que nous avons pu leur donner de bonnes informations sur les bénéfices sanitaires du vaccin avant que nous commencions vraiment à le faire.
Ces séances gratuites sont aussi l'occasion de faire un suivi médical, de prescrire des traitements en cas de besoin, de répondre aux questions des parents, autant d'aspects primordiaux dans la lutte contre le paludisme. Felicity Otu.
La lutte contre le paludisme, ce n'est pas juste le vaccin. Par exemple, il faut que les parents s'assurent que leur enfant soit correctement nourri. Parce que si l'enfant reçoit le vaccin sans avoir les nutriments nécessaires, comment peut-il développer les anticorps ?
Au total, dans les zones pilotes du programme de vaccination au Ghana, plus de 80% des nourrissons âgés de 6 mois à 1 an ont pu recevoir une première dose de vaccin. Victor Cariou, de retour de Boudoubouram, RFI.
Une trentaine de cibles du Hezbollah visées, Israël poursuit sans relâche les combats.
L'État hébreu a mené plusieurs frappes contre le sud du Liban hier et a assuré avoir, depuis le début du conflit, avoir abattu la moitié des commandants du Hezbollah dans la région. Une intensité sans précédent ces derniers mois, Paul Khalife.
L'aviation israélienne n'a jamais été aussi active depuis le début des affrontements avec le Hezbollah le 8 octobre. Elle a mené mercredi une trentaine de raids, dont 15 contre les localités frontalières de Ait Ashab et Ramieh, qui ont subi d'importantes destructions. L'artillerie israélienne non plus n'a pas chômé. Elle a pilonné une vingtaine de cibles le long du front qui s'étend sur 120 km. Malgré cette puissance de feu déployée, aucune opération terrestre n'a été enregistrée, comme l'a laissé supposer l'armée israélienne qui a annoncé des actions offensives dans le sud du Liban. Une source du Hezbollah, interrogée par RFI, a en outre démenti les informations selon lesquelles Israël avait tué la moitié des commandants du parti. Le Hezbollah aussi a été très actif mercredi. Il a tiré des dizaines de roquettes et des missiles guidés lors de 6 attaques contre des positions militaires et des localités israéliennes proches de la frontière. Les violences sur le front libano-israélien mercredi étaient d'une intensité inhabituelle, sans que cela dénote pour autant un changement du mode opératoire des deux belligérants. L'armée israélienne et le Hezbollah évitent toujours l'affrontement frontal au sol et continuent de privilégier les échanges de tirs à distance. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Des bombardements également sur la bande de Gaza avec des inquiétudes toutes particulières concernant Rafah, où d'après l'armée israélienne, les préparatifs s'accélèrent en vue de l'opération annoncée depuis plusieurs semaines. L'État hébreu assure que 4 bataillons du Hamas se trouvent toujours dans la ville. Le Hamas qui a par ailleurs diffusé hier une vidéo d'un otage israélien, premières images diffusées depuis des mois. Hersh Goldberg Pauline, 24 ans, y apparaît amaigri, amputé d'une main. Il s'y prend avec virulence au gouvernement de Benjamin Netanyahou qui, dit-il, n'en fait pas assez pour les otages. Après la publication de ces images, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du pays, notamment à Jérusalem. Et en soutien aux Palestiniens, des manifestations ont eu lieu, mais cette fois sur le campus de plusieurs universités américaines, notamment à Columbia, à New York, où le patron de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a haussé le ton. Il a appelé à envoyer la garde nationale si la situation n'était pas rapidement maîtrisée. Washington, enfin, a annoncé cette nuit avoir abattu 4 drones au Yémen dans des zones contrôlées par les rebelles houthis soutenus par l'Iran.
L'Iran où un rappeur a été condamné à mort hier.
Toumash Salehi est accusé d'avoir soutenu les manifestations du mouvement Femmes, Vie, Liberté après la mort en septembre 2022 de Mahsa Amini. Les rassemblements s'étaient transformés en vastes contestations contre le pouvoir, Sirosh Ghazi.
Âgé de 33 ans, Toumash Salehi est emprisonné depuis plus d'un an et demi pour son soutien au mouvement de contestation. À l'époque, il avait appelé les Iraniens à combattre le pouvoir. Dans de nombreuses chansons partagées sur les réseaux sociaux, le tribunal révolutionnaire d'Ispahan a condamné Toumash Salehi à la peine de mort pour incitation à la sédition, propagande contre le pouvoir et appel aux émeutes. La décision du tribunal peut être cassée par la Cour suprême. Dans ce cas, le chanteur sera condamné à une longue peine de prison. Ce verdict intervient dans un contexte de durcissement des mesures contre les femmes mâles ou non voilées. En effet, ces derniers jours, de nombreuses vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des policiers et des policières donner des avertissements aux femmes mal voilées ou encore les arrêter. Cela intervient également dans un contexte de tension entre l'Iran et Israël après l'attaque menée par Téhéran contre l'État hébreu en représailles à la destruction du consulat iranien à Damas. Sirosh Ghazi, Téhéran RFI.
RFI, il est 8h07 à Kiev, où une nouvelle aide américaine devrait arriver dans les prochaines heures.
C'est ce qu'a promis le président Joe Biden après le vote d'une enveloppe de 61 milliards de dollars d'aide militaire pour l'Ukraine. Un premier milliard de matériel devrait donc être envoyé très prochainement. Annonce faite alors que l'on apprenait que ces dernières semaines, et en toute discrétion, les États-Unis ont fait parvenir à Kiev des missiles de longue portée dans le cadre d'un paquet d'aide militaire de 300 millions de dollars approuvé mi-mars. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, il faut une défense européenne. C'est la ligne promue hier par Raphaël Glucksmann, chef de file socialiste pour les élections européennes. Il était en meeting à Strasbourg et il y a proposé devant 600 personnes un fonds de défense de 100 milliards d'euros. L'idée d'une Europe puissante, c'est aussi ce que devrait défendre le président Emmanuel Macron dans quelques heures lors d'un grand discours à l'université de la Sorbonne à Paris. Façon, disent les observateurs, de monter à l'offensive alors que la tête de liste de son camp, Valérie Ayer, peine à décoller dans les sondages, largement distancée par Jordan Bardella. Le patron du Rassemblement national est lui aussi attendu car à 45 jours du scrutin, la campagne s'accélère. Il prendra la parole en fin d'après-midi pour dévoiler son programme.
Pendant ce temps, les institutions européennes tournent avec notamment cette plénière du Parlement.
Les eurodéputés ont examiné plusieurs textes ce mercredi. Ils ont notamment voté en urgence une refonte des règles de la politique agricole commune, la PAC, avec un objectif affiché, calmer la colère du secteur. Après des manifestations en France, en Pologne, ou encore en Allemagne. Le Parlement a donc choisi d'évacuer certaines contraintes environnementales, décision saluée par la droite et le centre de l'hémicycle. Côté gauche, c'est plutôt la colère qui dominait. Daniel Valou.
Alors d'abord, nous allons vraiment réformer la PAC en réduisant le nombre de normes et de contraintes pour le monde agricole.
Parmi les mesures saluées par l'eurodéputé Les Républicains Anne Sander, la fin des jachères et de la rotation des cultures. L'idée assumée est de revenir sur ces contraintes environnementales pour répondre à la colère des agriculteurs.
De manière générale, dans ce texte, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on change l'état d'esprit. Parce que et la PAC et le Green Deal étaient tellement contraignants pour le monde agricole. Là, l'idée, c'est vraiment d'introduire de la souplesse.
Mais à gauche, on dénonce un détricotage des rares mesures environnementales négociées dans le cadre de la PAC. Un retour en arrière désastreux aux yeux de Benoît Biteau, d'Europe Écologie Les Verts.
plutôt que de faire le constat que ce qui est aujourd'hui en train de menacer et la souveraineté alimentaire et la compétitivité de l'agriculture, c'est le dérèglement climatique et qu'il faut qu'on accélère le mouvement pour les préserver de tout ça et au moins les rémunérer pour qu'ils puissent continuer à produire, on est en train d'effacer toutes les mesures qui permettaient justement de préserver ce qui peut demain être le socle de la compétitivité, du revenu et de la souveraineté alimentaire.
Très amers, les écologistes s'insurgent contre un texte bâclé en quelques semaines qui va pourtant remettre en cause des acquis négociés durant plusieurs années. Daniel Valot, Strasbourg, RFI.
Un ciel étrangement calme au-dessus de la France ce jeudi.
Et oui, peu d'avions pour strier le ciel et pour cause, le pays est traversé par un mouvement de grève des contrôleurs aériens. Enfin, pas exactement. Un préavis avait en fait été déposé. Il a finalement été levé, puisque les syndicats ont obtenu satisfaction, même si on ne connaît pas exactement le contenu de l'accord. Sauf que la nouvelle est tombée trop tard pour reprogrammer les vols qui avaient été annulés. Conclusion, plus d'un trajet sur deux supprimé à Roissy-Charles-de-Gaulle, jusqu'aux trois quarts des vols à Orly. Explication Nathanaël Vitran.
Cela faisait près d'un an et demi que la Direction Générale de l'Aviation Civile et les syndicats négociaient sur les conditions d'application d'une vaste réforme du transport aérien. Et décidément, à quelques mois des Jeux Olympiques, les syndicats sont en position de force, puisque la perspective d'une grève a permis en quelques heures de trouver une issue favorable à ce conflit. Une issue favorable avec le syndicat majoritaire à tout le moins, mais trop tard pour éviter une journée qui s'annonce compliquée. Par précaution, les aéroports français avaient déjà demandé aux compagnies aériennes d'annuler ou de reporter une partie de leur vol et il était trop tard pour les reprogrammer. D'autant que rien encore n'avait été signé mercredi soir avec les autres syndicats. Ces perturbations vont avoir des conséquences ailleurs en Europe puisque les contrôleurs aériens ne se contentent pas de gérer le décollage et l'atterrissage des avions. Ils assurent tout le trafic dans le ciel français. Ce qui veut dire qu'en plus des 2000 vols annulés, un millier d'autres pourraient être forcés de contourner l'espace aérien de la métropole, entraînant d'importants retards. L'association des compagnies européennes estiment que des centaines de milliers de passagers pourraient être concernés ce jeudi.
Nathanaël Vitron.
Et à défaut de voyager par les airs, un voyage musical pour terminer ce journal. Direction Bourges, dans le centre de la France.
Oui, comme tous les ans, cette petite ville accueille le Printemps de Bourges, 48e édition cette année. Événement qui ouvre traditionnellement la saison des festivals. Cette année encore, des centaines d'artistes, rodés ou débutants, et conformément à la tradition, des créations originales sont aussi à découvrir, avec par exemple hier soir un hommage à Françoise Hardy et ses 80 printemps, dont 60 ans de carrière. L'occasion pour la jeune génération et l'ancienne garde de se rencontrer et de mélanger leurs influences, Edmond Sadaka.
Au bout du téléphone, il y a votre...
Sur scène, une douzaine d'artistes et l'occasion pour le public de Bourges de découvrir certaines chansons restées relativement confidentielles et de réentendre d'autres devenues des standards, comme celle-ci interprétée par Clara Luciani et Zao de Sagazan.
Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème.
C'est à Ambroise Villaume, alias Sage, que le printemps a confié la direction musicale de la soirée. Cet artiste de 38 ans, biberonné à la musique anglo-saxonne, s'est donc plongé longuement dans l'œuvre de la chanteuse qui a fêté cette année son 80e anniversaire.
J'avais dans l'oreille les morceaux les plus connus, les plus évidents, et c'est vrai qu'en plongeant dans son répertoire, j'ai retrouvé une façon très anglo-saxonne de faire de la musique, avec vraiment un sens de la production, de l'harmonie. Donc ça m'a parlé encore plus que ce que j'aurais imaginé.
Grand absent de la soirée, Thomas Dutronc, bloqué par une grève des contrôleurs aériens. Il a dû laisser la jeune génération assumer l'héritage de sa mère. Une absence de dernière minute dont se serait bien passé le printemps, qui espère rassembler jusqu'à dimanche soir quelques 250 000 festivaliers. Edmond Sadaka, Bourges, RFI.
Le programme continue ce soir avec Olivia Ruiz ou Edith de Préto côté français, mais aussi l'américaine Cat Power qui interprétera les grands titres de Bob Dylan.
Merci à vous Léa Boutin-Rivière, à tout à l'heure. RFI Matin, dans les prochaines minutes, à la une en Asie, la structuration de la filière viande en Mongolie, réduire la taille des troupeaux pour améliorer le revenu des éleveurs et protéger la steppe, c'est tout l'enjeu. On en parle avec Stéphane Lagarde. Les titres de la presse française, reportage aussi après les inondations à répétition dans le nord de la France, les sinistrés s'interrogent, doivent-ils partir ou rester? De la musique encore avant le prochain journal, l'actualité africaine dans un quart d'heure, mais d'abord, ma petite humeur intelligente. présenté Artificiel du jeudi avec la complicité de Thierry Le Saint.
Le gouvernement donne un coup d'accélérateur à la simplification administrative.
C'est promis, c'est juré, les Français ne crouleront plus sous la paperasse.
Eh oui, messieurs, la paperasse. La paperasse qui, comme chacun le sait, est le matériau de base de l'administration.
Fini les démarches sans fin et les normes inutiles.
On doit simplifier, simplifier, simplifier tous les jours.
Débureaucratisons l'administration, simplifions les quotidiens.
Ça fait déjà un bout de temps que la simplification est en marche en France.
L'administration doit se mettre à la portée des hommes, sans multiplier les démarches, les contrôles et les papiers.
Au gouvernement de libérer les énergies en simplifiant les réglementations, les formalités, la paperasserie.
Mais comme le disait François Hollande, c'est pas facile.
La simplification, c'est compliqué.
Heureusement, aujourd'hui, le gouvernement a une arme secrète pour réussir à simplifier.
Je vous annonce que nous avons développé une IA souveraine, française, qui va révolutionner nos services publics.
Une IA française, une intelligence artificielle made in France pour simplifier. Quelle fierté!
Et merci pour tout ce bonheur.
La French IA est déjà en action et super efficace.
On s'est rendu compte que en mettant cette IA générative, on a su baisser les délais de traitement d'à peu près 15 jours à 3 jours pour répondre aux mails des usagers.
C'est pas si vite!
Un succès foudroyant. Et pour couronner le triomphe français, on a donné un prénom à cette merveille technologique.
Je vous donne un indice, ça commence par un
Alexandre.
Non.
Arthur.
Alban, Agnan, Arthénie.
Mais c'est pas des prénoms, ça.
Aurélien.
Antonin. Ah.
Mais non, rien de tout ça, messieurs, dames.
Elle s'appelle Albert.
Très drôle. Bon, allez, sans déconner, c'est quoi?
Non, non, ça n'est pas une blague. L'administration française entre dans la modernité grâce à Albert.
Albert!
Il n'y aurait aucun message caché.
Albert, vous êtes parfait.
On a juste donné un vieux prénom, passé de mode depuis plus de 50 ans, à la dernière innovation techno-française.
Eh oui, pour Albert.
À Albertville, il est 7h17.
Et là, c'est le bug.
Et vous restez avec nous sur RFI. C'est RFI matin jusqu'à 10h. À la une en Asie, votre rendez-vous avec l'actualité asiatique aujourd'hui en Mongolie, un pays qui se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne et qui est confronté à l'érosion des sols. Nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial Stéphane Lagarde. Bonjour Stéphane.
Bonjour Arnaud.
Pour lutter contre l'usure des steppes mongoles, il faut commencer par réduire le nombre des têtes de bétail.
C'est ça, un peu plus grande que le Tchad, trois fois plus grande que la France. La Mongolie compte 3 500 000 habitants pour près de 70 millions de têtes de bétail. Un pays de pasteurs nomades où près d'un tiers de la population, Arnaud, tire ses revenus de l'élevage. Problème, plus le cheptel augmente, plus les steppes s'épuisent. D'où le programme lancé cette semaine par Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières pour structurer la filière viande. L'association travaille depuis 20 ans en Mongolie sur la santé animale, mais aussi sur la revalorisation du revenu des éleveurs pour sortir du cercle vicieux de la production à faible valeur ajoutée conduisant au surpâturage. Marion Lelarge, la représentante d'AVS à Oulan-Bator.
La question du nombre reste le gros défi aujourd'hui pour la Mongolie et pour l'élevage. On a 70 millions de têtes de bétail, sachant que les steppes mongoles seraient en capacité a priori d'en soutenir à peu près 30 millions de manière durable. Donc c'est vous dire l'enjeu qu'il y a de réduire cette taille des troupeaux. Il faut aussi se dire qu'un éleveur, c'est toujours important d'avoir un certain nombre d'animaux. Ça montre qu'on est capable de gérer ce troupeau-là. Et donc ça demande un changement de mentalité. Le changement de mentalité prend du temps.
Et pour accompagner ce changement de mentalité, le gouvernement mongol a approuvé il y a 10 jours un nouveau programme qui est baptisé Nouvelle coopérative riches éleveurs. Il s'agit, là encore Stéphane, de soutenir l'organisation des nomades pastoraux en collectif pour qu'ils aient plus de poids sur le marché.
Oui, et soutenir aussi la souveraineté alimentaire du pays. Nous avons fait 5 heures de voiture, Arnaud, dont 2 sans route à travers la steppe pour atteindre une communauté, celle de Dashin Chilen, où un peu comme au McDo, sur le mur du bâtiment administratif de ce village nomade, on trouve le portrait des éleveurs méritants. Bazarzat est expert agricole. Les chèvres sont de véritables tondeuses à steppe, nous a-t-il dit. Il faut encourager l'alternance des pâturages.
Pour être affiché sur ce mur et figurer dans la liste des meilleurs éleveurs nomades, il faut non seulement réaliser des actions positives pour la collectivité, mais aussi s'engager à produire une viande de bonne qualité. On prend en compte l'alimentation du bétail, le respect de pâturages alternés et tout ce qui fait que la qualité prime sur la quantité chez ces éleveurs.
Alors, il y a la structuration de la filière viande, mais aussi celle du cachemire, Stéphane.
Oui, le cachemire qui vaut de l'or pour les éleveurs nomades, puisque cette fibre représente 80% de leurs revenus. La Mongolie est le deuxième producteur mondial de cachemire derrière la Chine. 10 000 tonnes de matière brute par an qui partent à 70% en Chine via des intermédiaires qui frappent directement à la yourte. L'idée est aujourd'hui de passer à la vente de produits transformés, nous a dit Urachimeg Davajaj, qui est patronne de la coopérative Eldei Beitag.
Les Chinois, ils achetaient presque 90% des cachemires produits en Mongolie. Les cachemires juste lavés. Ils ne veulent pas laisser les valeurs ajoutées en Mongolie. Ils veulent juste importer comme ça matière première. À partir de 1er juillet 2024, le gouvernement mongol va interdire d'exporter le cachemire lavé. On va exporter à partir de cachemire égaré.
Voilà, jarret, j'ai dû googliser, hein, Arnaud, oui. Cela signifie retirer les longs poils rigides de la laine de chèvre.
D'accord. Eh bien, maintenant, je sais. Pour financer tous ces programmes, il faut de l'argent, évidemment, Stéphane.
Oui, il y a notamment un fonds de 800 000 euros qui a été signé le 23 avril dernier avec le ministère français des Affaires étrangères sur 2 ans, avec un point de certification, notamment 25 points visant à passer de la quantité, encore une fois, à la qualité.
Merci à vous, Stéphane Lagarde, envoyé spécial de RFI en Mongolie. Il est 13h21 à Oulan-Bator, 7h21 à Paris. Un coup d'œil au titre de la presse française de ce jeudi 25 avril. Emmanuel Macron, l'Européen, occupe nombre de unes ce matin. 7 ans après son grand discours sur l'Europe à la Sorbonne, le président français revient en effet aujourd'hui dans l'université. Macron et l'Europe, acte 2, résume La Croix. Il veut peser sur le débat, écrit le quotidien catholique. Macron entre en campagne pour sauver son camp, assure le Figaro, puisqu'on est à 46 jours du scrutin des élections européennes. L'enjeu, c'est de faire véritablement entrer en campagne la liste de la majorité conduite par Valérie Yeye, qui peine à exister, collectionne les mauvais sondages, c'est ce que constate le Figaro aujourd'hui à la Sorbonne. Macron espère surtout sauver la campagne de sa majorité, confirme Libération. À la Sorbonne, Macron a renfort à faire, s'amuse Libé. Macron joue aux pompiers, titre encore le journal. L'Europe, c'est le dernier combat de Macron, assure pour sa part l'opinion, mais reste-t-il un tour dans le sac du magicien ? Le journal libéral s'interroge. Un autre sujet à la une du Parisien, le surtourisme. Venise, les Calanques, l'île de Ré, tous luttent contre le surtourisme dès ce jeudi à Venise. Les visiteurs d'un jour devront s'acquitter d'un droit d'entrée de 5 euros. L'objectif, c'est de lutter contre la surfréquentation et la pollution. L'idée fait son chemin aussi en France. Tourisme, l'overdose, écrit dans ce dossier le Parisien. Les revues de presse à suivre tout au long de la matinée avec Frédéric Couteau sur RFI. Reportage dans le nord de la France à présent. Retour sur ces inondations spectaculaires qui ont frappé la région il y a bientôt 6 mois. Des inondations à répétition. Aujourd'hui, l'heure est au bilan et aux expertises, mais beaucoup d'habitants se posent la même question. Partir et tout quitter ou rester et tout reconstruire. Illustration à Neuville sous Montreuil dans le Pas-de-Calais. Cette commune de 700 habitants a été l'une des plus touchées de la région. Reportage de Valentin Hugues.
Tyr est d'ordinaire un port de pêche paisible, mais depuis le 9 octobre 2023, cette station balnéaire prisée des touristes vit au rythme de la guerre.
Voilà, une petite erreur d'aiguillage, nous étions repartis au Liban, on va essayer de retrouver le nord de la France avec ce reportage à Neuville sous Montreuil, reportage signé Valentin Hugues.
Michel et Annick sont relogés à 15 minutes d'ici.
Vu, ça se fissure dans le couloir.
Mais aujourd'hui, ils retournent dans leur maison noyée par les inondations.
Même il y a 15 jours, ça y était pas.
Une maison beige au volet noir que Michel a construite de ses mains dans les années 70.
Ici, c'était la salle à manger. Là, le salon. On n'a rien récupéré.
Parce que là, l'eau, à peu près, pour qu'on se rende compte, elle monte...
Je crois que c'était 1 mètre, 1,20 mètres au-dessus de la fenêtre, ouais. J'ai mal au cœur. Ce que je dis, jamais on pourra y revenir. Jamais, jamais, jamais.
À présent, la maison est vide. Il n'y a plus que les machines pour assécher les murs.
Ça va, Michel ?
Et Jérôme Pérez,
c'est mon deuxième fils.
Locataire d'une partie de l'étage et conseiller municipal à Neuville.
Moralement, c'est compliqué parce qu'on se voit moins.
T'as qu'à passer, hein ?
Oui, mais avec les horaires que je fais, ça c'est compliqué.
On dit de venir manger avec nous.
L'inondation, ça change beaucoup de choses, en fait.
Hein, c'est frangin. Un gros. Bah, je suis à Neuville. Je peux pas t'en faire de café, il n'y a plus d'eau.
Sans travaux, les gens ne peuvent même pas nous dire s'ils vont revenir ou pas. S'ils font pas les travaux, même moi, même si je suis élu ici, je partirai. Je peux pas rester là.
Près de 6 mois après les premières inondations, Michel et Annick n'ont toujours pas de nouvelles des assurances.
Stand-by.
Donc là, rien.
Ouais.
Ils ne savent pas non plus si l'État va racheter leur maison, mais sont prêts à la brader moitié prix.
Ça vaut plus rien.
Et à Neuville, toujours aucun travaux. Les cours d'eau ne sont pas nettoyés, les digues pas construites.
Je conçois que l'heure actuelle, le niveau d'eau soit encore trop élevé pour qu'on puisse travailler.
Olivier Dequesne, maire du village.
Mais on commence déjà tout ce qui est paperasse. Parce que mai, juin, juillet, août, la France elle est en vacances. On n'a rien pour le mois de septembre. Et puis tout le monde a peur. Hein. Il y en a qui sont sur le bord de prendre la corde. Hein. Ils ont tout perdu. De toute façon, j'ai dit, hein, arrivé au mois de juillet, août, on sera oublié. On y est parti pour.
Alors, sans travaux d'envergure, toujours cette même question. Partir ou rester? Tiffaine Sailly et Antoine Gibier ont choisi de rester, coûte que coûte.
Bonjour.
Les jeunes propriétaires avaient emménagé un mois avant les inondations.
C'est vrai que ça nous a coupé tous nos projets. Et c'est vrai qu'on repart sur une page blanche. On se projette avec des aménagements dans la maison, comme par exemple, on aimerait bien surélever. Faire des espèces d'estrades, on verra comment on peut faire du coup avec les entreprises.
Le coût total des rénovations est estimé à 80 000 euros. Ils espèrent se réinstaller à la fin de l'été.
C'est vraiment un traumatisme qu'on a eu, mais avec tout ça, on a créé du lien avec les personnes. Hein. C'est dingue.
L'après-inondation et l'urgence de protéger Neuville, c'est aussi sauver l'âme du village pour que les habitants n'aient plus jamais à se poser cette question, partir ou rester.
Reportage dans le nord de la France, Valentin Hugues.
RFI Matin.
Et voici la musique sur RFI, le coup de cœur des programmateurs de la maison. Aujourd'hui, c'est Jun Gelly, auteur, compositeur, interprète d'origine congolaise, avec ce titre « T'étais où ?» en playlist RFI ce mois-ci.
Tête sous l'eau, y'avait personne pour m'aider. Et j'avais mes sentiments sous scellés. Quand je me suis noyé de la tête aux pieds, personne pour me sécher. En désaccord même avec mon reflet. Quand j'étais sous la neige, à chercher soleil, dis-moi t'étais où. Quand j'avais rien à donner, rien à t'offrir, dis-moi t'étais où. Ah mon bébé. Ah mon bébé, dis-moi t'étais où. Quand j'étais sous la neige à chercher le soleil, dis-moi t'étais où. Quand j'avais rien à donner, rien à t'offrir, dis-moi t'étais où. Ah mon bébé, dis-moi t'étais où. Ah mon bébé, pendant ce temps t'étais où.
Fallait pas douter, changer de côté. Pourtant j'avais dit, mais t'as pas écouté. Quand j'avais les galères, les soucis, de loin tu guettais. Maintenant qu'il y a Baraka, il succède, tu reviens fêter. Météo, météo, au-dessus de moi il fait beau. Météo, météo, et tous les jours c'est cadeau.
Quand j'étais sous la neige à chercher soleil, dis-moi t'étais où. Quand j'avais rien à donner, rien à t'offrir, dis-moi t'étais où. Ah mon bébé, dis-moi t'étais où. Ah mon bébé, dis-moi t'étais où. J'étais sous la neige à chercher le soleil, dis-moi t'étais où. Moi j'avais rien à donner, rien à t'offrir, dis-moi t'étais où. Ah mon bébé, dis-moi t'étais où. Ah mon bébé, dans ce temps t'étais où.
Quand j'étais ancien mec, t'étais où. T'as vu le mappé, t'étais louche. African gangster, ouais c'est nous. Tous les chemins mènent à Rome, Lukaku. Y'a trop de nyama à l'after. Et te font un redma, voilà t'as peur. DJ mets le son qui casse la fête hein. DJ mets le son qui casse la fête. Dakar au Ghana, tu es un 3 au 9 hein. Fais la Kuti, Papa Wemba. En roue arrière, l'ox et Madinina. À la marina, sur un bateau de bata.
Quand j'étais sous la pluie, tu ne voulais pas te mouiller. Non, non, non. Quand j'étais sous la pluie, tu ne m'appelais pas par mon prénom. Quand j'étais sous la neige à chercher soleil, dis-moi t'étais où. Quand j'avais rien à donner, rien à t'offrir.
Jun Gelly, t'étais où en playlist RFI ce mois-ci, le coup de cœur des programmateurs de la maison. Merci de rester avec nous. L'actualité africaine dans 30 secondes.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix. Pascal Paradou.
40 ans auprès des plus grands metteurs en scène de théâtre et la comédienne Valérie Dréville écrit un témoignage intitulé « L'art du débutant ». Elle raconte ce qu'elle a appris, comment chaque rôle est une découverte, comment la parole doit naître sur scène comme si c'était la première fois.
De vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.